Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une demi-heure à parler de cinéma. Pendant cette demi-heure, nous parlerons d'un film qui suscite beaucoup d'attentes de la part des producteurs. C'est le film d'Astérix de Guillaume Canet. Et ce sera l'occasion de jouer un blind test autour de la filmographie de Jonathan Cohen, puisque Jonathan Cohen joue dans ce film, il n'est ni Astérix ni Obélix, mais il est un personnage qui est quand même important. Bonjour Manu.
Bonjour.
Alors toi, c'est un film indépendant américain.
Film américain indépendant, oui. Ghost Therapy.
Et qui a coûté sans doute 30, fois
30
moins
000, cher. 30 000 dollars. Ça a été fait pendant le confinement.
Guillaume est dispensé d'être avec nous dans ce studio. Il est très malade, mais il a eu le temps quand même d'enregistrer deux chroniques. Celle de Maurice le chat fabuleux, c'est un film d'animation. Et puis, il a revu l'aventure de Madame Muir, ce chef-d'œuvre de Joseph Mankiewicz. Mais nous commençons cette émission avec After Sun de Charlotte Wells. Au travers de ses souvenirs, une femme recherche qui était son père.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
I love you.
Love you.
Sophie est aujourd'hui une femme et elle se remémore les vacances qu'elle a passées en Turquie dans un club avec son père lorsqu'elle avait 9 ans. Callum, qui avait connu la paternité très jeune et n'était plus avec sa mère, combattait alors la dépression derrière une apparente bonhomie et tentait coûte que coûte de garder une certaine complicité avec sa fille. Sophie regarde les films de vacances qu'elle a tournés avec un caméscope en cette fin d'année 90 et se demande qui était finalement ce père qu'elle n'a peut-être pas si bien connu que cela.
Done it all and you can too.
Wish we could escape for longer.
Dans After Sun, premier long métrage de la réalisatrice écossaise Charlotte Wells, on évite les clichés. Non, ici, la petite fille ne prend pas soin de son père immature. Non, nous ne découvrirons pas de lourds secrets familiaux. Les deux parents séparés ne sont pas en mauvais termes et il n'y aura pas de tension exacerbée pendant ces vacances entre la fille et le père jusqu'à une explosion finale ou une engueulade salvatrice. Dans After Sun, le scénario évite volontairement les schémas et les étapes de progression classiques pour finalement nous livrer une vision éclatée, parcellaire, non chronologique, parfois d'un moment important dans la vie de cette petite fille, les dernières vacances qu'elle a passées avec son père. La mise en scène, légère, intelligente, cherche à reproduire les souvenirs qui reviennent de façon floue, filmer des souvenirs où la tentative de se souvenir passe ici par un jeu sur le décadrage, sur la mise au point, de sorte que le focus est parfois fait sur l'arrière-plan, parfois sur le premier plan, sur les personnages. Il y a également de très longs et de très beaux panneaux qui dévoilent les paysages et c'est au spectateur de créer son propre écho à ces images. Et puis After Sun explore aussi ce rapport filmique si particulier à un père très jeune qui n'arrive pas à s'imaginer à 40 ans et qui est déjà surpris d'être arrivé vivant à 30. Un père qui parfois n'arrive pas à prendre ses responsabilités. Pour interpréter ce duo, la jeune comédienne Frankie Corio, qui a de faux airs de Natalie Portman, période Léon, et qui impressionne réellement dans un rôle pas simple de préadolescente, face à elle, dans le rôle de son père, Paul Mescal, qui vient récemment de donner un coup de projecteur inespéré au film en étant nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour cette performance. Alors qui est Paul Mescal? Eh bien, c'est un très jeune acteur de 26 ans hein, que le public a découvert dans la jolie série Normal People et que l'on a revu ensuite furtivement dans le très bon film The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal, où il donnait la réplique à Olivia Colman. Bref, Paul Mescal est encore un quasi inconnu, mais avec un vrai talent qui devrait sûrement être amené à être exploré davantage au cours des prochaines années. After Sun n'est pas un film qui se grignote, il faut plonger dedans pour en saisir toutes les subtilités, toute la profondeur et se laisser happer par son ambiance, par sa mélancolie si particulière. On ne sait pas si ces vacances marquent la fin d'une insouciance, si le père va s'abîmer davantage ensuite dans la dépression ou pire, s'il est décédé depuis. Mais le film baigne dans une nostalgie douce amère qui laisse présager en effet le pire tout en racontant des instants de bonheur. Un très beau premier film donc porté par un duo très émouvant. Par contre, je remarque une tendance fâcheuse et particulièrement désagréable chez les films indépendants que l'on retrouve encore donc dans After Sun, cette tendance à filmer des scènes de karaoké interminables dans lesquelles les personnages chantent mal une chanson et la chantent, j'aimerais que l'on m'explique pourquoi, du début à la fin, ce qui est inutile et même parfois très douloureux.
After Sun de Charlotte Wells est en salle depuis le 1er février. Un film qui détonne avec Astérix, dont nous allons parler un peu plus tard, vu via le petit budget qu'on lui a consacré, c'est Ghost Therapy de Clay Tatum.
Ben oui, c'est le film et le film est bien.
This is Cinerama.
Oui, c'est bien mon avis.
The Civil Dead, hein, curieusement rebaptisé par un autre titre anglais, hein, donc Ghost Therapy, sans doute plus accrocheur, réactivant peut-être au vu de l'affiche des films comme Ghost World de Terry Zwigoff, qui était adapté d'un roman graphique de Charles Burns. D'ailleurs, on pense beaucoup à Charles Burns en voyant le film. Hein. Donc Ghost Therapy est un très curieux premier long métrage, hein, greffe réussie entre le cinéma indépendant de festival, la comédie burlesque et le film de fantôme. Alors, auteur complet du film, à la fois réalisateur, scénariste et comédien principal, Clay Tatum ne craint pas l'hybridation des genres et des styles, les faisant cohabiter harmonieusement. D'ailleurs, ce drôle d'objet n'est rien d'autre qu'une histoire de cohabitation un peu singulière, celle entre un artiste solitaire et un fantôme. Clay est un photographe fauché et insouciant, hein, un peu filou et paresseux, une sorte de personnage anachronique, mais très en vogue dans un certain cinéma underground des années 90, un peu influencé par le grunge des films de Richard Linklater à ceux de Kevin Smith. Il mène une existence de loser mondain avec sa femme, Whitney. Cette dernière, soutien permanent, hein, lui conseille de sortir, de se bouger plutôt que de rester dans le salon à siffler des bières en se posant de nombreuses questions philosophiques qui ne mènent nulle part. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait très bien, siffler les bières, hein, notamment. Mais un jour, alors qu'il se décide enfin à s'extraire de son canapé en allant prendre des photos à l'extérieur, il rencontre White, un ami d'enfance, qui a cette particularité d'être mort. Mais Clay est le seul à le voir et à lui parler. À partir de ce moment, Ghost Therapy décolle, sort de sa petite zone de confort de comédie douce-amère, gentiment subversive, excellemment dialoguée et interprétée, mais n'apportant rien de neuf.
You shine, dude.
White, le fantôme, hein. D'ailleurs si on ajoute un E, ça fait blanc, comme Casper le fantôme, hein. Et donc une présence de l'au-delà qui ne peut rien faire du tout, ne toucher personne, ni même, comme il le déplore, faire ses lacets. Bref, il est une sorte de présence-absence, ne pouvant qu'observer le monde et parler avec son ami, seule action possible à envisager. Alors petit avantage plutôt sympa, il va l'aider à gagner un peu d'argent en trichant au poker, une des solutions pour créer une complicité entre ces deux losers qui appartiennent à des mondes différents, de manière littérale, hein. Leur association prend alors l'allure d'un buddy movie original et souvent drôle, ponctué de répliques savoureuses et de situations cocasses. Mais Clay Tatum n'en reste pas au contour de la comédie fantastique à l'absurdité assumée. Il la saupoudre, on va dire, d'une couche d'angoisse existentielle, distillant même quelques moments effrayants lorsque White s'immisce, hein, dans la maison de Clay la nuit, restant immobile devant le pas de sa porte, de sa chambre. Le réalisateur instaure là un climat légèrement oppressant qui détonne avec le ton global plutôt décontracté, voire même nonchalant. S'inspirant, selon les propos du cinéaste, hein, d'Albert Brooks, un cinéaste un peu oublié, hein, des années 80, des frères Cohen, de Mike Lee et du Loup-garou de Londres, Ghost Therapy, mini-production tournée alors pour 30 000 euros, affiche de réelle qualité de mise en scène. Alors certes, le formascope, hein, un peu cache-misère, pas toujours très bien utilisé, hein, juste là pour camoufler le micro-budget, ne paraît guère pertinent, mais le soin apporté quand même au montage, aux éclairages intérieurs et au cadrage permet au film de sortir de nombreuses, de se différencier même de nombreuses petites productions marginales pour qui la mise en scène s'avère presque anecdotique. Il s'agit là sans doute, hein, au-delà de sa dimension surnaturelle, d'un film personnel, hein, pas loin de l'autobiographie, puisque le réalisateur interprète un personnage très proche de lui dans sa vie. D'ailleurs, il s'appelle Clay dans le film, comme lui. Sa femme a aussi le même prénom, c'est sa femme dans la vie. Et puis White, c'est Whitmar Thomas, C'est donc le co-scénariste du film qui joue aussi le personnage du fantôme dans le film. Donc, c'est vraiment un film de famille, presque. Hein. Voilà, Ghost Therapy lui permet, on va dire, de se poser un certain nombre de questions sur l'existence sans chercher de réponse. Hein. Il se termine néanmoins alors, par une note assez noire, hein, voire même mélancolique, auto-flagellation d'un personnage sympa, mais logiquement égoïste face à une situation sans solution apparente. Que faire quand on a un fantôme qui nous suit jusqu'à la fin de nos jours?
Ça donne envie en tout cas. Ghost Therapy de Clay Tatum est en salle depuis le 1er février. Un film qui est sorti il y a longtemps, c'est celui de Mankiewicz, Madame Muir, enfin l'aventure de Madame Muir. Madame Muir a acheté une maison dans laquelle, eh bien, c'est encore une histoire de fantôme d'ailleurs, hein,
oui, oui.
Habite un fantôme, c'est celui du capitaine Greg. Et c'est Guillaume qui nous en parle.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Quatre fois je l'ai loué et quatre fois le locataire est parti dès la première nuit.
Okay. À l'occasion de la Saint-Valentin qui approche, il est de bon ton de faire plaisir à son aimé et de lui témoigner, si besoin est, son affection. Alors, si vous êtes cinéphile ou si vous voulez rattraper une quarantaine à votre culture tout en faisant une bonne action et à coup sûr des heureux, cette année, il est possible de revivre justement l'une des plus belles histoires d'amour du cinéma sur grand écran, l'aventure de Madame Muir de Joseph Mankiewicz. Alors, il met en scène Lucie Muir, une jeune et jolie veuve qui s'installe avec sa petite fille dans un cottage au bord de mer que la rumeur dit hanté. Alors effectivement, Lucie ne tarde pas à faire la connaissance du fantôme du capitaine Craig, le précédent occupant de la maison. Le revenant ne se montre pas très amical puisqu'il entreprend tout d'abord de lui faire vider les lieux. Mais leur relation, comme on s'en doute, elle va évoluer au fil du temps.
Pourquoi hanter cette maison ?
Vous pouvez rester. Je vous propose un marché. Laissez ma chambre telle qu'elle est et je vous promets de n'entrer dans aucune autre pièce de la maison. Ainsi votre rejeton n'entendra jamais parler de moi.
Mais si vous prenez la plus belle chambre, où irai-je dormir ?
La plus belle chambre.
Notons toutefois la grosse différence entre le titre français et le titre en version originale. S'il est question d'une aventure chez nous, on ne précise pas de quelle façon. Le titre français joue probablement avec la polysémie du mot « aventure », désignant tout autant une série de péripéties qu'une liaison amoureuse. En anglais, il est question de « The Ghost and Mrs. Muir », soit « Le fantôme et Madame Muir ». Alors, étrange traduction donc, qui enlève toute la part fantastique du film, comme pour prévenir que l'on serait dans un film plus sérieux. Alors que l'élément fantastique est pourtant capital, car il symbolise justement notre rapport au temps, comme les sentiments qui nous animent et qui sont soumis parfois aux élans de la vie, comme de la mort. Il est parfaitement incarné par l'impérial Rex Harrison, dont le caractère évolue face à la noblesse et la grâce de Jean Tierney, déjà sublimé par Mankiewicz dans Le Château du Dragon un an plus tôt. Tous deux composent un couple magnifique, digne des situations impossibles de Roméo et Juliette, et qui partagent avec l'œuvre de Shakespeare la propension à défier le temps qui passe, ce qui est la marque des vrais classiques. Et si l'aventure de Madame Muir vous a plu, et que votre rendez-vous de la Saint-Valentin se soit bien passé ou non, vous pourrez enchaîner sur l'une de ses plus belles déclinaisons, à savoir Quelque part dans le temps, le magnifique film de Jeanne Hosswark, adapté du non moins magnifique livre de Richard Matheson intitulé Le jeune homme, la mort et le temps. On le voit, par essence, l'amour est fantastique.
J'aimerais que vous ne juriez pas, c'est tellement laid.
Si vous trouvez ça laid, c'est heureux que vous ne lisiez pas mes pensées, madame.
L'aventure de Madame Muir est en salle, mais seulement dans vraiment certaines salles. C'est une reprise. Et si ça ne passe pas près de chez vous, eh bien, vous pouvez toujours le regarder en VOD.
En VOD ou l'acheter en DVD. Ou...
Oui.
Voilà.
Voilà. Plus de 60 millions d'euros pour livrer une histoire d'Astérix. On parle maintenant de Astérix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
J'arrive de Chine, j'ai besoin de votre aide.
Assurez-moi, vous savez où c'est la Chine quand même ?
Ouais.
Même moi, je sais où c'est.
Astérix, mérite-t-il qu'on dépense autant d'argent pour raconter ses aventures ? C'est la question qui se pose après la sortie le 1er février sur les écrans français d'Astérix, l'Empire du Milieu, cinquième long métrage en prise de vue réelle des aventures de l'irréductible Gaulois et de son copain Obélix. Un film réalisé par Guillaume Canet. Un projet de longue haleine qui aura coûté plus de 60 millions d'euros. Autant dire que ceux qui l'ont financé aimeraient se rembourser. Et c'est un pari osé, déjà parce que Canet n'est pas Cameron, c'est ce réalisateur qui marche en ce moment sur le sol français. Et quand on regarde les entrées des précédents opus d'Astérix, eh bien un seul n'a pas dépassé les 6 millions d'entrées. C'est Astérix et Obélix au service de Sa Majesté qui a engrangé seulement 3,8 millions d'entrées. C'est 4 fois moins que le carton d'Alain Chabat avec sa mission Cléopâtre. Et justement pour moi, qui n'ai jamais lu de BD d'Astérix parce que j'étais tintinophile, l'exemple de Chabat me réconciliait avec le héros gaulois tant l'univers était fantastique. fantasques et les gags savoureux. Avec Canet, c'est tout autre chose. Pourtant, on sent, et tous l'ont fait, hein, que le réalisateur a voulu raccrocher ce film à notre société. Pour Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, il y avait un sans-papier. Ici, eh bien, ce sera le végétarien, avec Astérix qui ne veut plus manger du sanglier. Et puis, il y aura aussi les idées féministes, mais ça prête à rire. Hein, parce que sur le premier point, le refus de la viande est vite balayé et n'est qu'un enjeu narratif. Et sur le second point, les scénaristes ont quand même imaginé deux personnages quarantenaires qui en pincent pour une princesse qu'on imagine pucelle. Nous voilà plongés donc dans ces vieilles histoires écrites par des hommes pour tout le monde. Alors autant dire que les valeurs de féminisme sont traitées avec trop de légèreté.
Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne nous demander de l'aide à nous ?
Non et non.
Moi je suis d'accord, j'ai rien en ce moment.
T'arrêtes, la princesse et moi, on va se marier.
Et tu sais quoi, Obélix ?
Tu seras mon témoin.
Mais c'est pas vrai, il est en train de lui parler, il est en train de nous balancer !
Pour l'histoire, faisons simple, hein, nous sommes en 50 avant JC, l'impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d'état fomenté par Deng Xinquan, un prince félon, alors on apprécie au passage le jeu de mots avec une chanson d'Abba, aidé par Grain de Maïs, un marchand phénicien interprété par Jonathan Cohen, et par sa fidèle guerrière Tan Han, la princesse Fu Yi, bien fille unique de l'impératrice, s'enfuit en Gaule pour demander de l'aide aux deux valeureux guerriers que sont Astérix et Obélix. Et donc c'est parti pour une grande aventure hein, vers la Chine, une aventure semée d'embûches, et dans le même temps, César, appelé à la rescousse, voulant prouver quel homme valeureux il est aux yeux de Cléopâtre, va lui aussi occuper le récit. Alors c'est pas la partie la plus inintéressante, c'est la plus contemporaine en tout cas, avec Zlatan Ibrahimovic qui incarne Antivirus, la star de la Légion romaine. Car oui, il y a du beau monde, alors on peut supposer qu'une bonne partie du budget d'ailleurs est partie dans les nombreux cachets qu'il a fallu distribuer. Il y a Angèle qui joue Falbala, on retrouve Biclo et Oli, Aurel San, mais aussi les youtubeurs McFly et Carlito ou encore Florent Manodou. Certains clins d'œil sont plaisants, hein, comme celui avec Aurel San ou Angèle. Hein. Pour ces dernières, il y a une séquence où elle demande à Obélix de lui confirmer ou non son consentement, donc référence évidemment à son gros tube. Les acteurs qui sortent du lot, il y a tout d'abord Gilles Lelouch qui incarne Obélix avec beaucoup de talent, faisant oublier deux par deux, alors très facilement. Et il y a Jonathan Cohen qui reste dans son registre, interprétant un quoi roublard ou un peureux commerçant. Il y a Marion Cotillard aussi dans un petit rôle, et puis José Garcia qui reprend un rôle qu'il avait dans la bande de Canal+, et au vu des réactions de la salle, eh bien c'est une bonne pioche.
La mère Cléo, elle va pas s'en remettre.
Et mon nom restera gravé dans le marbre de l'histoire.
Ah, j'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien.
Les clins d'œil, il y en a d'autres, comme celui fait à Pierre Richard qui incarne Panoramix et qui reprend quasi, alors mot pour mot, un dialogue de la chèvre. Mais on est très loin de l'extravagance d'Alain Chabat. Malgré son scénario un peu faible, le film reste plaisant, hein, tentant de mettre en scène ses stars tout en conservant l'image qu'on se fait du duo Astérix et Obélix, deux copains qui peuvent se tourner le dos mais jamais longtemps. Alors quel besoin on avait d'aller en Chine, le cinéma n'y gagne pas grand-chose, et puis j'imagine que ça a plombé le budget. Canet nous place des moments de combat en hommage à Tsui Hark avec des combattants qui s'émancipent de la pesanteur, mais ça ne le fait pas vraiment un instant. Alors même s'il cumule quelques défauts, cet Astérix reste plaisant, disons qu'il est plus recommandable qu'Astérix aux Jeux Olympiques qui était alors lui une vraie souffrance. Ce dernier avait fait plus de 6 millions d'entrées, donc Canet pourrait bien parvenir à ce chiffre. Alors il met la pression, Guillaume Canet, sur les spectateurs, leur signifiant que s'ils ne jouent pas le jeu, eh bien, il n'y aura plus de films à gros budget en France. Le problème, c'est qu'Astérix, une comédie somme toute bas niveau, ne mérite pas autant de budget. Les effets spéciaux doivent être réservés, à mon sens, hein, à créer des mondes qui n'existent pas, mais pas à gonfler des histoires qui pourraient largement s'en passer. Astérix, l'Empire du Milieu, est en salle depuis le 1er février sur quasiment 1000 écrans en France.
This is Cinerama.
Ce film, Astérix, avec de nombreux acteurs, nous donne l'occasion de jouer un blind test. Nous avons pris un des comédiens importants hein, de ce film, c'est Jonathan Cohen, d'autant qu'on n'avait jamais fait de blind test autour de sa filmographie. Alors, il est connu à la télévision, mais il est aussi connu eh bien, dans le cinéma et majoritairement pour des comédies, ce qui ne gâche rien quand on en écoute des extraits. Voici le premier extrait de ce blind test.
C'est toi qui en as marre.
Ouais, j'en ai marre.
C'est toi qui en as marre.
J'en ai marre, j'en ai ras-le-cul.
C'est toi qui fais des gros pipeaux de merde et c'est toi qui en as marre.
T'as vu comment tu me parles, là ? Tu crois que je suis content d'avoir fait un pipeau de merde, comme tu dis ? Tu crois que j'en ai marre plus de te mentir ? Parce qu'avec toi, je peux pas parler. Tu sais pourquoi ? Parce que j'ai peur. Ouais, j'ai peur. Comme un enfant de 8 ans, j'ai peur. Parce que dès que j'ouvre la bouche, tu me brimes, tu me casses, tu me castres. Voilà, j'en ai marre de ça, d'accord ? Moi, j'ai besoin de m'exprimer. Tu me laisses pas m'exprimer. Moi, je t'aime, j'ai envie de faire ma vie avec toi, mais va falloir que tu me laisses maintenant m'exprimer. Va falloir que tu me laisses faire mes trucs. Va falloir que tu me laisses me tromper. Va falloir que tu me laisses réussir. D'accord ? Faut arrêter. Nous, on a une putain d'idée. Elle est géniale, notre idée. Et je la sens comme j'ai jamais senti quelque chose. Alors, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'ouvres les fenêtres. J'ai besoin que tu me laisses voler parce que je suis un goéland, bordel.
C'est trouvé, Manu.
Et c'est Budapest de Xavier Jean.
Oui, film sorti en 2018 avec, c'est un duo plutôt avec Manu Payet. Deux amis qui s'ennuient dans leur travail décident de tout plaquer pour créer Crazy Trips, une agence qui organise des enterrements de vie de garçons à Budapest, un peu particulière. Hein. Mais ils vont finalement perdre le contrôle. Deuxième extrait de ce blind test consacré à la filmographie de Jonathan Cohen.
Faut que tu partes. Mais tu vas où?
Chez ma mère.
Mais pourquoi?
Parce que je... C'est mon anniversaire. Oh,
mais j'ai rien prévu.
Mais 40 ans.
Oh, mais j'ai pas de cadeau.
Eh ben, tu veux que j'en achète un avec ta carte bleue?
Et
je te l'achète. Je l'achète, je te le donne. Tu me l'offres? Oui, tu me
d'accord.
L'offres.
D'accord.
On fait ça.
Ok.
Super. Mmh.
Mais tu veux pas qu'on fasse l'amour pour ton anniversaire?
Non, parce que je sens que t'as pas vraiment envie de moi.
Bon.
Non, c'est plus pour te détendre.
Et
quoi? Eh ben, je suis pas un spa.
Un quoi?
Un spa.
Dialogue étonnant, c'est trouvé.
Et c'est donc énorme de Sophie Le Tourneur, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ça, film de 2020, avec, là on l'entend, Marina Foïs. À 40 ans, Frédéric veut un bébé, Claire, elle, n'en a jamais voulu, et ils étaient bien d'accord hein, là-dessus, mais il commet l'impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Et Claire se transforme en baleine, et puis de son côté, Frédéric, lui, devient complètement gnangnan, c'est lui qui va aux réunions hein, pour les femmes enceintes, et ainsi de suite. Ce film lui a permis d'être nommé au César du meilleur acteur, mais il ne l'a pas remporté. Troisième extrait de ce blind test.
Bah, moi, au moins, je fais pas caca dans jardin des gens.
Je ne peux pas chier derrière un rideau. Est-ce que c'est clair, ça? D'accord? Ce n'est pas possible pour moi. Alors, excuse-moi. Voilà, j'étais à deux doigts de l'occlusion intestinale. Et même gamin, j'allais pas chez mes potes pour faire caca parce que je pouvais pas.
Mais Ben, ouais. C'est la vie, le caca.
Marion, s'il te plaît, on se connaît pas. Tu vois, c'est nos premières vacances. J'ai pas envie qu'on parle de caca. C'est vrai, je n'ai pas envie de ça.
Ok. Okay,
garde ton caca, je garde le mien.
Je sais ce qu'il te faut. Sunny Beach.
Hein?
Sunny Beach, c'est une grosse ville balnéaire avec des transats, des parasols partout, des cocktails et des plages débiles. Non, et tu seras
c'est
content.
Pas ce que je te demande, hein, vraiment. Hein, je m'en fous, moi aussi j'adore l'aventure, mais si on peut aller à Sunny Beach maintenant, ça serait top.
Alors, ça n'a pas été trouvé. L'indice, bon, alors là, c'est un duo avec Camille Chamou. Ce sont deux trentenaires qui font connaissance sur Tinder et qui décident très vite de partir en vacances ensemble.
Alors, première vacances, alors.
Première vacances. Ouais. Alors, ils vont en Bulgarie et ils ont trouvé un compromis hein, parce que Marion, elle, voulait aller à Beyrouth. Et puis, lui, Ben, voulait rejoindre Biarritz parce que là-bas, il pouvait avoir tout le confort. Voilà, et ça se joue là-dessus. C'est le film Première vacances de Patrick Cassir, film de 2019. Nouvel extrait de ce blind test.
Vous êtes anthropophage ?
Anthropologue.
Ah ! Je me disais aussi que... Bon. Alors, votre fils a disparu, c'est bien ça ?
Oui.
Oui. Ouais, âge difficile, hein. Et vous dites qu'il est chez les...
Autopies.
Les Autopies. Eh oui. Donc vous savez où il est ?
Non, j'ai pas de nouvelles de lui depuis plusieurs semaines.
Non, j'entends bien, mais ça n'est pas une disparition. Je vais vous donner un exemple très simple. Je n'ai pas vu Fabrice, qui est à l'accueil, depuis au moins 30 minutes, mais je sais où il est. Il est dans la pièce d'à côté. Donc Fabrice n'a pas disparu.
Qu'est-ce que c'était drôle ce film.
Oui, c'est vrai. C'était donc Terrible Jungle.
Oui, de Hugo Benamozig et de David Caviglioli. Un film de 2020 avec Catherine Deneuve qu'on entend là. Et puis il y avait aussi Vincent De Dienne qui lui interprète un jeune chercheur naïf qui part étudier les Autopies, donc un peuple mystérieux d'Amazonie. On l'entend dans l'extrait. Et sa mère donc le croit perdu et déclenche des recherches. Et bien dans ce film, Jonathan Cohen interprète un gendarme, un chef de brigade, perdu dans l'Amazonie, mais qui est absolument pas courageux. Ce film n'a pas fonctionné, mais je vous le recommande parce que l'humour est vraiment très bon. Voilà, c'était
peut-être pas sorti au bon moment, à la bonne
période. En plein été. Allez, dernier extrait de ce blind test.
Monsieur, vous êtes au courant quand même de ce qui se passe dans le monde? Ou ça vous passe au-dessus de la tête? Vous savez quand même que produire de la viande en intensif, c'est une aberration, non?
Non.
Excusez-moi du terme, c'est un crime contre l'humanité. Mais c'est ça. Et vous, vous êtes là avec votre carte, là. Génocidaire, bovin, ovin, caprin, là. Vous vous rendez complice de ça? Vous savez ce que vous êtes, monsieur? Je vais vous le dire ce que vous êtes ni plus ni moins qu'un Hutu des fourneaux.
Vous
êtes un petit Hitler de la restauration. Non, je ne me calme pas.
Calmez-vous.
C'est très grave.
Non, mais... C'est trouvé.
Et c'est En même temps de Carven et Delépine.
Oui, film sorti en 2022. Là, c'est un duo cette fois-ci avec Vincent McCain. À la veille d'un vote pour entériner la construction d'un parc de loisirs à la place d'une forêt primaire, un maire de droite décomplexé, c'est Jonathan Cohen, mais vraiment, alors là, dans un rôle incroyable, qui essaie de corrompre son confrère écologiste, donc Vincent McCain, mais ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Là aussi, c'est une comédie que je recommande absolument, parce que du début à la fin, en fait, il n'y a pas vraiment de perte de rythme. Enfin, c'est drôle, c'est absurde, enfin, ça fonctionne très bien. Ainsi s'achève ce blind test consacré à la filmographie de Jonathan Cohen, qui est dans le film Astérix, l'Empire du Milieu. Terminons cette émission avec un film d'animation, c'est Maurice le chat fabuleux. Alors qu'est-ce que Maurice le chat fabuleux? Eh bien c'est un chat qui arrive dans une nouvelle ville avec ses compères les rats pour arnaquer tout le monde. Et c'est Guillaume qui nous en parle.
Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis,
Cinérama.
Parfaitement au point et incapables de nous tromper.
Maurice le chat fabuleux ou The Amazing Maurice en VO est une coproduction américano-germano-britannique. Alors son origine, qui semblerait être un détail, ben, ne l'est en fait pas du tout. Car si Maurice le chat fabuleux promet, ben, à voir son affiche et sa bande-annonce, de l'animation en 3D traditionnelle, des graphismes déjà vus et un récit mignon avec des animaux, en fait il est ben, presque rien de tout cela. Maurice le chat fabuleux, c'est une proposition d'animation qui, on va le voir, n'est pas toujours réussie, mais qui a l'immense mérite d'aller à l'encontre de tout ce que l'Amérique, dans la très grande majorité des cas, inflige au monde de l'animation et au cinéma des quatre coins du globe, surtout depuis que Disney a racheté Pixar, tuant de manière assez globale ben, un marché déjà assez policé, et le dernier grand et gros studio qui arrivait à produire des œuvres pas livrées, clé en main. Car oui, Maurice le chat fabuleux risque d'étonner à vos bambins et de faire réagir dans les chaumières après le chemin du retour, car il n'est ici pas question d'une animation toute lisse, polissé, aseptisé et pré-mâché. Avant d'être un chat fabuleux, Maurice est d'abord un livre, hein, Le fabuleux Maurice et ses rongeurs savants, le premier volume indépendant pour enfants de la série Les Annales du Disque Monde de l'écrivain anglais et, devrions-nous dire plutôt, génie et génial Terry Pratchett.
Il y a une odeur, vous ne trouvez pas?
C'est comme une odeur de mystère.
Allez, cherchez l'entrée du passage secret.
Mais à quoi ça ressemble, un passage secret?
Il n'y a pas de passage secret.
Maurice le chat fabuleux et ses compagnons les rats ben, parlent et pensent. Ils pensent tellement qu'ils s'amusent à mener la belle vie en manipulant les gens. Ils parcourent le pays en simulant des attaques sur des petites villes, en mettant en scène de fausses invasions de rongeurs auxquelles Maurice le chat ben, vient bien évidemment y mettre un terme pour repartir avec des espèces sonnantes et trébuchantes. Ce plan machiavélique se déroule à merveille jusqu'au jour où il tombe sur un village sinistré où les rats font particulièrement tâche et où leur destinée va prendre une toute autre ampleur ben, face à une menace qui va redistribuer les cartes. Difficile d'en dire plus, hein, si ce n'est que l'intrigue de Maurice ben, lorgne régulièrement vers les contes de fées et s'amuse avec les codes. Ici, il est particulièrement question du joueur de flûte de Hamelin, hein, mettant en scène des rats, mais aussi au conte des frères Grimm. Cette relecture des contes de fées est intéressante car, ben, pour une fois, elle n'oublie pas d'évoquer leur cruauté originelle, mais elle mentionne également leur déroulement et conclusion parfois très sanglante. Bref, tout ce que Disney a bien sûr édulcoré tout au long du XXe siècle, ce qui n'est pas forcément mal en soi, hein, si les récits originaux ben, n'avaient pas fini par disparaître au profit de ces réinterprétations plus clinquantes que critiques. Les personnages de Maurice le chat fabuleux n'hésitent pas à commenter le déroulé du récit, donc bah, questionnant les points narratifs forts propres à un conte de fées, et n'hésitent pas à souligner le fait qu'il y a une différence entre le souvenir que l'on a de ces contes, donc la version aseptisée de Disney, et leur source littéraire bien plus sombre, donc subversive, donc plus riche en émotions et en intérêts narratifs, comme au niveau moral. Attention, Maurice le chat fabuleux n'est pas pour autant un film d'animation violent et dérangeant, loin de là. On n'est juste pas loin de l'esprit de l'exceptionnelle mini-série Le Dixième Royaume, programme lui aussi en apparence rose bonbon, mais qui s'amusait à relire avec un très grand humour et avec une bonne dose de vitriol les pages des contes de fées traditionnels et qui avait fait les grandeurs des programmations de l'après-midi sur M6 en période de Noël. On peut dire que l'Europe est à coup sûr plus que jamais une belle alternative à une animation américaine qui ne cesse de s'enfoncer et de s'éteindre dans ses grilles de lecture et ses schémas inclusifs qui oublient d'inclure tout simplement l'essentiel, une porte ouverte vers la construction d'un esprit critique pour tous les enfants. C'est entre autres ce pourquoi Terry Pratchett a œuvré, pourquoi il nous manque tant aujourd'hui, et ce que Maurice le chat fabuleux, malgré ses quelques défauts, reste un spectacle tout à fait plaisant et totalement recommandé aux petits comme aux plus grands.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Ça se termine toujours comme ça.
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
Manu, on se retrouve la semaine prochaine. Tu auras un film qui est plutôt bien sur le papier.
Plutôt un gros film, Knock at the Cabin, le nouveau film de Shyamalan.
Et nous aurons aussi un blind test. Rendez-vous la semaine prochaine.